Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Stéphane Pedrazzi.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'émission consacrées à l'actualité des marchés financiers et des placements. Au sommaire ce matin, l'introduction en bourse de Porsche. Ça se passe à Francfort, le prix d'introduction était fixé à 82,50€. Les premiers pas se passent plutôt bien. Cette introduction valorise le constructeur automobile à plus de 76 milliards d'euros. On va bien sûr y revenir dans quelques instants. On parlera de la Banque d'Angleterre qui a dû intervenir en urgence hier pour tenter de calmer les marchés financiers. Elle a annoncé le lancement d'un programme temporaire d'achat d'obligations britanniques. C'est le grand retour du quantitative easing. Avec quelles conséquences? On en parlera dans quelques minutes avec Christopher Dembick. On parlera également du taux d'usure. Ça y est, il est repassé au-dessus des 3%. Ce sera effectif à partir du 1er octobre, c'est-à-dire samedi. En application de la formule de calcul habituelle, pas besoin d'un geste supplémentaire, estime la Banque de France. On prendra l'avis des professionnels tout à l'heure à 10h20. Et puis on tentera de répondre à une question. De plus en plus de chefs d'entreprise achètent leur résidence principale ou secondaire avec justement leur entreprise. Est-ce bien légal? Nous écouterons la réponse d'Olivier Rosenfeld tout à l'heure à 10h45. Voilà pour le sommaire. Soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble jusqu'à midi.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Allez, tout de suite, direction Euronext. On retrouve Aude Kersulek. Aude, les marchés américains avaient terminé en hausse hier et ça a un petit peu soutenu les bourses européennes. On s'attendait à ce que ça soutienne les bourses européennes. C'est plutôt du rouge derrière vous sur cet écran.
Et oui, c'est une belle déconvenue qu'on a eue ce matin après la petite hausse d'hier et l'espoir suscité par cette intervention de la Banque d'Angleterre, espoir que ça allait régler nos incertitudes. Eh bien, c'est pas le cas hein, puisque le CAC repart à la baisse de 1,6%. On est à 5669 points. Alors en réalité, c'est vrai que depuis, on a quand même des taux souverains qui réagissent maintenant à la hausse, hein, 2,85% pour le 10 ans français, 4,2% pour le gilt du Royaume-Uni, hein, le taux souverain 10 ans qui augmente depuis hier, alors que ça s'était un peu calmé après l'annonce de ce rachat de dettes, rachat ciblé, hein, alors pour éviter une crise de liquidité, notamment pour les fonds de pension, et puis rachat ciblé dans le temps, hein, puisque ça ne sera actif que jusqu'au 14 octobre. Mais là, c'est comme si ce matin, on s'était rappelé que la Fed, hein, la Banque centrale américaine, n'agira peut-être pas de la même sorte, parce que jusque-là, elle a quand même adopté un ton des plus agressifs. Et surtout, aujourd'hui, on a un de ses membres les plus faucons, les plus au discours le plus agressif, James Bullard, qui s'exprime, donc qui va sûrement nous rappeler que les hausses de taux à venir seront encore sévères. Et puis, on a aussi l'inflation allemande en début d'après-midi qu'on attend au-dessus de 10%. Donc là aussi, ça pourrait nous ramener à la réalité, tout comme cette estimation finale du PIB américain qui devrait là être en dessous de zéro, donc être un deuxième chiffre négatif de suite pour le PIB américain. Donc c'est pas un programme très réjouissant. Les futurs américains sont dans le rouge aussi en ce moment, et donc en Europe c'est rouge vif, -1,5 pour le CAC 40. C'est le cas également pour l'Eurostoxx 50 et le DAX 40. Et puis à Londres, ça plonge de 2% pour l'indice parisien. Une des seules valeurs en hausse, c'est Thales, plus 1,8%. On est dans la défense, donc c'est un secteur qui s'en sort bien quand l'aversion au risque est présente. Et puis du côté des baisses, Carrefour, Renault qui perdent plus de 4%.
On va s'intéresser à Porsche, évidemment. Introduction en bourse du constructeur automobile allemand. Ça se passait plutôt bien dans les tout premiers échanges. Comment est-ce que se comporte le titre désormais ?
Oui, c'était 84 euros dans les premiers échanges. On est à 82,80 euros maintenant, plus 0,3% de hausse. Dans une journée comme celle-ci, où les marchés ont vraiment tourné à la baisse dès l'ouverture, on peut dire qu'on s'en sort pas si mal du côté de chez Porsche. Une belle IP, ou en tout cas réussie en termes de demande. Hein. Le montant levé, 19 milliards d'euros, ça en fait la troisième plus grosse IPO de l'histoire en Europe. Un dividende spécial qui sera versé aux actionnaires, qui est égal à la moitié de cette vente. Et puis le financement de l'électrification des véhicules. Voilà la feuille de route de Porsche. On verra comment ça améliore la marge, avec un objectif de 20% pour les années à venir pour Porsche. Donc plus 0,4% pour le moment pour Porsche AG. Attention, si vous voulez suivre le cours de l'action, Porsche AG, à ne pas confondre avec Porsche SE, la holding financière de Volkswagen qui est, elle, présente au DAX 40, alors que ce n'est pas encore le cas de l'action qui s'est introduite aujourd'hui. Donc Porsche AG à 82,84 €. Et puis retour en France sur le SBF pour deux résultats qui sont tombés hier. Solution 30, après qui a publié hier une perte nette au premier semestre de 11 millions d'euros, avec le DG qui évoque une transition opérationnelle pour expliquer ses résultats. Alors il y a un changement de stratégie vers des marchés qui sont plus porteurs, mais ça prend du retard et ça se voit dans les chiffres. C'est sanctionné par le marché. Solution 30 perd 13,81% à 2,02 €. Et puis une perte nette aussi pour Orpea, 269 millions d'euros cette fois-ci, portée par beaucoup de dépréciation d'actifs. La marge d'EBITDA s'est contractée à 18% contre 24% un an plus tôt. Alors ce sont des comptes qui se sont terminés au 30 juin, donc ils n'incluent pas encore la revue stratégique qui est en cours. Mais forcément, après le scandale, c'est encore une mauvaise nouvelle pour le gérant de maison de retraite Orpea, qui perd maintenant 7,4% à 12,37 €.
Merci beaucoup, Aude Kersulec, en direct du siège d'Euronext. Prochain point sur les marchés, ce sera dans le match des traders tout à l'heure à 10h30. Bientôt 10h08, l'essentiel de l'actualité économique avec Stéphanie Collot.
BFM Business, l'info éco. Stéphanie Collot.
Bonjour Stéphanie.
Ouais, bonjour Stéphane. Et à la une, c'est la réforme des retraites. Emmanuel Macron a tranché et sur la méthode, il temporise. Il est prêt à laisser sa chance à la concertation et veut lancer des discussions avec les partenaires sociaux et les parlementaires jusqu'à Noël au plus tard, avec en ligne de mire une adoption du texte à la mi-mars. La réforme relèvera d'un projet de loi, ce qui permettra de traiter le recul de l'âge de départ, mais aussi la pénibilité et les carrières longues et l'emploi des seniors. Emmanuel Macron qui n'exclut pas de dissoudre l'Assemblée nationale en cas de vote d'une motion de censure contre le gouvernement. La réforme des retraites qui est au cœur d'une journée de mobilisation. Aujourd'hui, plusieurs syndicats appellent à la grève et à manifester partout en France. Ils protestent contre la réforme des retraites et pour le pouvoir d'achat. Au Royaume-Uni, Liz Truss assume, malgré les turbulences financières et l'avertissement du FMI. La première ministre britannique défend ses mesures de soutien à l'économie et les baisses d'impôts. Un plan évalué entre 100 et 200 milliards de livres. Des décisions difficiles et controversée mais nécessaire, selon Liz Truss. Une quatrième fuite a été identifiée sur les gazoducs Nord Stream qui relient la Russie à l'Allemagne en mer Baltique. Bruxelles soupçonne des actes de sabotage. Américains et Russes renvoient la responsabilité. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira demain sur le sujet à la demande du Kremlin. En Espagne, l'inflation ralentit nettement en septembre. Elle atteint 9% sur un an après 10,5% en août. C'est grâce à la baisse des prix de l'électricité et des carburants. C'est l'événement du jour sur les marchés, l'IPO de Porsche à Francfort, et c'est la plus grosse opération boursière en Europe depuis 10 ans. C'est un succès. Le titre est coté 84 euros au-dessus du prix d'introduction fixé à 82,50 € par action, ce qui valorise le constructeur 76 milliards d'euros. Porsche devrait lever plus de 9 milliards d'euros, de quoi financer son virage vers l'électrique. Renault tiendra son capital market day le 8 novembre. Le constructeur va détailler son projet de création de deux entités, une dédiée à l'électrique et l'autre aux motorisations thermiques, qui sera ouverte à des partenaires extérieurs. De quoi se dégager une marge de manœuvre pour revenir dans la course à l'électrification. Et puis, H&M publie un bénéfice net en chute de 89% au troisième trimestre à 49 millions d'euros, plombé par son désengagement de Russie. Le Suédois, numéro 2 mondial de l'habillement, annonce un nouveau plan d'économie, Stéphane.
Merci beaucoup, Stéphanie. Petite question, vous êtes plutôt hôtel ou camping ?
Plutôt hôtel, je le concède.
Alors, tant pis pour vous. On va parler camping dans un instant. On va parler du titre Trigano. Restez avec nous.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zépipo.
Et oui, notre pépite ce matin, c'est Trigano, groupe spécialisé dans la conception, la commercialisation de véhicules, d'équipements de loisirs, notamment des camping-cars, qui représentent pratiquement 80% de son chiffre d'affaires. On en parle avec Sébastien Féjean, directeur associé chez ID Midcap. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Pourquoi est-ce que vous recommandez Trigano à l'achat ?
Parce que déjà le cours a fortement baissé et corrigé depuis le début d'année, comme beaucoup de boîtes qui opèrent dans la consommation discrétionnaire. Et en plus, il y a une activité particulière puisque le groupe a publié son chiffre d'affaires annuel mardi soir. Et en ce moment, vous avez donc le salon du Bourget le salon du camping-car qui se tient au Bourget, je vais y arriver. Qui évidemment est un moment important puisque c'est là où les potentiels acquéreurs de camping-cars viennent voir les véhicules qu'ils souhaitent acheter.
Un mot du cours, puisqu'hier il a fortement progressé dans le sillage de la publication des résultats. Vous avez un objectif de cours à 130 euros, ça représente un gros potentiel de hausse, hein, plus de 45%.
Oui, alors en fait, déjà, bon, on peut peut-être parler un peu de la publication que le groupe a faite donc mardi sur son chiffre d'affaires annuel. Donc, on a eu une progression qui a été donc de 8,3% sur l'ensemble de l'année, hein, avec un chiffre d'affaires qui a tangenté les 3,2 milliards d'euros. Donc, c'était parfaitement en ligne avec ce qu'on attendait. Il y a évidemment toujours le même problème de production qui a pesé sur la croissance cette année, c'est-à-dire qu'en fait, les problèmes de châssis qui permettent évidemment ensuite de pouvoir construire un camping-car ont été assez majeurs sur l'exercice, et donc ça a évidemment pesé encore une fois sur les capacités de livraison du groupe. Donc la bonne nouvelle, c'est que ces problèmes sont en voie de résolution. Alors progressivement, hein, le groupe a communiqué sur une amélioration attendue à partir du T4 2022, donc son premier semestre fiscal, puisque Trigano clôture fin août. Et ensuite, il y a également un autre élément qui est intéressant, c'est que vous n'avez peu ou pas de stock chez les concessionnaires. Donc on peut estimer que si la production reprend l'an prochain avec un effet prix embarqué et finalement une demande qui reste présente, hein, comme on atteste les différents salons d'automne qui sont tenus et qui ont tous connu des records d'affluence, eh bien ma foi, on pourrait effectivement estimer que l'an prochain, Trigano pourrait dégager une croissance. Nous, on est plus prudents, on n'attend pas une croissance à deux chiffres, mais c'est quelque chose que Trigano pourrait atteindre. Voilà.
Merci beaucoup.
On est effectivement assez positif.
Merci beaucoup, Sébastien Féjean, d'avoir été en ligne avec nous, directeur associé chez ID Midcap. 10h13, le point macro.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
La Banque d'Angleterre qui a été appelée à la rescousse pour tenter de calmer les marchés. Hier, elle a annoncé le lancement d'un programme temporaire d'achat d'obligations britanniques. On va décrypter cette décision et ses conséquences avec Christopher Dembick, directeur de la recherche économique chez Saxo Bank. Bonjour Christopher.
Bonjour.
L'intervention de la BOE a provoqué une baisse des rendements obligataires. On est retombé aux environs de 4% ce matin sur le gilt à 10 ans. On était à 4,5% au début de semaine. Forte détente également sur les taux à 30 ans. D'abord, un mot sur cette réaction des marchés.
On est effectivement sur le marché, je pense, attendait dans un premier temps que la Banque d'Angleterre puisse intervenir. Ça faisait déjà un certain temps, dans un certain stade, mais dans un premier temps, la Banque d'Angleterre a fait le dos rond. Mais vu la panique, et on a eu quand même des éléments, hein, il y avait certains, même banquiers d'affaires, qui disaient on est quasiment arrivé mercredi matin, donc avant l'intervention, à un moment qui rappelait Lehman Brothers, parce qu'il y a un problème de liquidité et de contrepartie sur certaines poches du marché, notamment sur le marché obligataire britannique. Donc il n'y avait pas d'autre choix. Et surtout, il y a eu des éléments d'alerte dès mardi de la part, notamment des investisseurs auprès de la Banque d'Angleterre pour qu'elle intervienne. Donc, il fallait qu'elle fasse quelque chose. La réaction ensuite est effectivement assez logique, c'est-à-dire que ça permet temporairement de calmer la panique. Et j'insiste sur temporairement parce que c'est un peu trop tôt pour savoir ce qui va se produire.
C'est une sorte de grand retour du quantitative easing. Avec quelles conséquences ?
Alors, ça va être compliqué parce que faire du QE dans un monde où quasiment tout le monde fait du durcissement monétaire à part quelques exceptions, quelle va être l'efficacité ? Ça, c'est le premier point. Vous allez avoir des tensions. Alors, bien évidemment, peut-être que sur les taux longs, ça va permettre de contenir la hausse, mais sur les taux à court terme, ça peut être plus problématique et là, on pourrait avoir une envolée. Il ne faut pas oublier, notamment, je crois que c'est à peu près 30%, quasiment 30% des prêts immobiliers au Royaume-Uni sont à taux variable. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui justifie, je pense, l'intervention de la Banque d'Angleterre. Mais je vous avoue que sans coordination des banques centrales pour faire du QE, et je ne vois pas, bien sûr, la BCE ou même la Fed faire marche arrière. Au contraire, on a eu des intervenants de la BCE ce matin disant qu'il faut faire du quantitative tightening. Donc, on est dans le marche arrière. Je pense que ça va être compliqué pour la BOE de maintenir ce cap-là, sachant que c'est pas du tout le paradigme économique aujourd'hui de faire du QE, c'est plutôt d'en sortir. Donc c'est très dur, on sait quand on a un seul pays à part qui fait ça.
Alors pour ceux qui ont manqué un épisode, on va faire un petit rappel des faits, mais c'est la présentation du projet de budget britannique il y a quelques jours qui a mis le feu aux poudres. Le texte prévoit notamment de grosses réductions d'impôts, il prévoit un geste très important pour geler les prix de l'énergie pour les particuliers et les entreprises. Le FMI a lancé une mise en garde sur les baisses d'impôts, mais aussi sur le manque de ciblage de ces mesures pour geler le prix de l'énergie. Est-ce que vous partagez les inquiétudes du FMI ?
Oui, alors il n'y a pas du tout de ciblage, c'est quand même très mal mis en avant. Après, la première ministre britannique a été même assez claire dans ses propos lorsqu'elle a été interviewée, c'est-à-dire bon, on ne va pas s'amuser sur la théorie du ruissellement, mais force est de constater qu'elle assumait parfaitement, notamment que les baisses d'impôts sont plutôt ciblées sur les plus aisés, donc ils vont plus bénéficier de cet aspect-là. Et même le paquet anti-inflation qui avait été présenté un peu plus tôt lorsqu'elle a pris ses fonctions, ça n'aidait pas particulièrement en tout cas, ce n'était pas suffisant pour les classes les plus défavorisées. Donc, on est quand même sur une vision qui est très idéologique de la manière d'agir. Je pense que le FMI, à l'inverse, le FMI a été souvent critiqué dans ses approches, mais là, force est de constater, un point qu'il a mis en avant, c'est que ça va accentuer les inégalités et très vraisemblablement, ce paquet budgétaire va le faire. Donc, on s'interroge quand même un peu sur la pertinence du point de vue macroéconomique de ce type d'approche.
Ouais. Le chancelier de l'Échiquier a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de changer une ligne du projet de budget, mais après cette déclaration du FMI qui est un peu une humiliation pour le gouvernement britannique, pensez que le budget qui sera officiellement présenté le 23 novembre va pouvoir rester sur cette même ligne ?
C'est dur pour eux de faire marche arrière complètement en termes de crédibilité, hein, vous le voyez bien. En revanche, on peut avoir des ajustements. Ça dépendra bien évidemment de comment les marchés vont évoluer d'ici là. Je suis pas certain que du jour au lendemain, les marchés vont complètement s'atténuer. Je pense que la capacité d'intervention de la BOE va être encore testée dans les prochains mois à une séance. Donc, ça va être compliqué. Il y aura des ajustements, mais on ne va pas avoir un revirement complet, puisqu'en termes politiques, ce serait quand même une humiliation assez importante. Sachant, comme vous l'avez déjà dit, que l'avertissement du FMI, qui est assez inhabituel, est déjà en quelque sorte une humiliation.
On va parler des taux de la Fed et de la BCE, mais surtout de la BCE. Olli Rehn, le gouverneur de la Banque centrale finlandaise, qui fait partie du clan des modérés de la BCE, évoquait hier un taux neutre pour la BCE d'ici Noël, avec probablement une hausse de 75 points de base pour la prochaine réunion. C'est quoi le taux neutre pour la BCE ?
Si on en juge par les commentaires à deux reprises hier et aussi lors de la dernière réunion de la BCE, Christine Lagarde a reconnu qu'on visait le taux neutre sans savoir à quel niveau il était. Donc ça vous montre quand même la réalité, c'est que le taux neutre, on en entend parler bien sûr depuis cette phase de durcissement monétaire, c'est un peu le niveau de taux qui est idéal. Alors en zone euro, la BCE ne communique rien, la Banque du Canada par exemple, elle a communiqué sur un taux neutre qui aurait dû être le taux à partir duquel ce serait effectivement une situation un peu idéale du point de vue macroéconomique, notamment en termes de pression inflationniste. La réalité, c'est que la Banque du Canada a reconnu que le taux neutre est certainement pas au niveau qui a été divulgué, puisqu'il va falloir encore continuer d'augmenter les taux. La réalité, c'est sur cet aspect-là, le taux neutre, on en parle beaucoup. Et je pense que Christine Lagarde est assez franche, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement à quel niveau il se situe. Donc c'est ça la difficulté. Et on se focalise peut-être un peu trop sur un indicateur qui n'a pas une grande pertinence au-delà du discours. En tout cas, ce n'est pas ça qui va conditionner les actions de politique monétaire.
Merci beaucoup, Christopher, d'avoir été en ligne avec nous. Christopher Dembick, directeur de la recherche économique chez Saxo Bank. 10h20, l'immobilier.
Votre rendez-vous avec Otari, solution B2B pour simplifier et accélérer la vente d'immobilier neuf. Otari.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo.
Le taux d'usure pour les crédits immobiliers va repasser au-dessus des 3% à partir de samedi 1er octobre en application de la formule traditionnelle. La Banque de France estime qu'il n'est pas nécessaire ni même souhaitable de relever exceptionnellement le taux d'usure au-delà du réajustement trimestriel. Elle rappelle qu'il s'agit avant tout d'un mécanisme destiné à protéger le consommateur. On va en parler avec Olivier Biancarelli, directeur général du groupe Giboire. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, groupe immobilier indépendant. Historiquement, vous êtes présent en Bretagne et dans les Pays de la Loire. Vous êtes maintenant implanté en région parisienne, en Île-de-France depuis 2017. Vous pensez que le taux d'usure au-dessus de 3%, 3,05 pour être précis, pour les prêts de plus de 20 ans, va permettre de débloquer la situation ?
Alors, ça va incontestablement donner un peu d'oxygène. C'est l'application de la formule qui existe. Faut-il la réviser ? La réponse ne m'appartient pas. Ce qui est vrai, c'est qu'on a observé quand même que le taux de désistement des ménages est passé de 13 à 26% en France récemment. Donc il y avait bien un problème qui était avéré, réel, que nous on a ressenti dans nos géographies traditionnelles du Grand Ouest. On avait à la fois un phénomène de refus de prêts bancaires, alors que les gens étaient solvables, mais aussi un phénomène d'autocensure de la part des clients qui est beaucoup plus difficile à quantifier. En tout cas, le phénomène était bien là. On se donne de l'oxygène. Pour combien de temps est-ce que ce sera suffisant ? L'avenir le dira.
Taux de refus qui frôlait les 50% pour certaines catégories d'emprunteurs.
J'ai cité une moyenne.
Ouais. Quelles ont été les conséquences de ce coup de frein du marché du crédit sur l'immobilier ? Est-ce que ça a entraîné une baisse des prix ?
Alors non, et c'est là un peu le paradoxe de la situation dans laquelle on se trouve. On est dans un système où on a, en raison des phénomènes qu'on connaît bien, hein, la situation post-Covid avec une reprise ultra rapide qui a créé de la tension sur les matières, sur les marchés, qui a désorganisé des filières, la guerre en Ukraine qui crée de l'incertitude. Tout ça a enclenché une spirale inflationniste, prix matière, prix énergie que l'on connaît, et donc un phénomène inflationniste qui vient impacter le pouvoir d'achat et donc la demande. Mais on a aussi toujours un problème d'offre, donc puisqu'on a un problème structurel d'offre de logement dans ce pays qui n'est pas résolu, loin s'en faut, puisque les mises en vente ont encore baissé lors des derniers mois. Donc on a à la fois, et ça c'est un peu l'originalité de la situation actuelle, on a un problème d'offre et un problème de demande simultanément.
Sur le site internet du groupe Giboire, vous avez des programmes immobiliers neufs qui sont proposés aux acheteurs. D'abord, comment se porte ce marché du neuf aujourd'hui ?
Alors, il se porte relativement bien et nous faisons partie, nous, des promoteurs. Alors, nous sommes un promoteur résilient qui a bientôt un siècle. On est passé à travers plusieurs crises, au moins deux majeures durant les 30 dernières années. Donc, on a peut-être une perspective un peu différente. On fêtera notre siècle d'existence donc l'année prochaine. Nous, on pense que les fondamentaux restent là. C'est-à-dire, et ça c'est quand même très important, quand on parle d'économie, il faut savoir aussi prendre un pas de recul.
Ouais, dans l'immobilier, il faut savoir dézoomer.
Exactement, hein. On est sur des sujets long terme. Qu'est-ce qu'on a comme fondamentaux ? On a d'abord des besoins de logement, je le disais, qui sont structurels. Il en faut à peu près 500 000 par an, alors on peut argumenter là-dessus, mais c'est à peu près ça. On n'y est pas, il y a un besoin de logement. On a une démographie qui est très dynamique en France, elle est beaucoup plus que dans les autres pays européens, donc ça c'est très important. On a des taux qui montent, certes. On en parle beaucoup de nos taux d'intérêt, mais je ne suis pas très très vieux. Je me souviens avoir fait des emprunts il y a moins de 10 ans à 4, 5%. Donc ouais. il faut remettre les choses aussi dans leur contexte historique. Et puis enfin, on n'est pas dans une situation de récession économique. On est dans une situation de légère décroissance. On a par ailleurs un gouvernement, je pense à Bruno Le Maire, à Christophe Béchu, qui sont à la manœuvre. Donc voilà, nous, notre position, et on le voit sur nos marchés, c'est-à-dire qu'on a clairement une comment dirais-je, un ralentissement que l'on observe depuis l'été de nos ventes, par exemple sur le pays nantais, c'est vrai, mais on a toujours une augmentation des prix, hein, 6,5% en moyenne en France, et ce qu'on observe dans nos régions. Et on a donc les deux phénomènes, toujours ces deux phénomènes qui s'expliquent par le paradoxe de la crise de l'offre et de la demande en parallèle. Et
j'aimerais qu'on parle de votre stratégie. Vous allez vous développer dans de nouvelles régions, vous vous ouvrez à de nouveaux secteurs et surtout, vous avez présenté des objectifs carbone ambitieux. Vous pensez que c'est le bon timing pour le faire dans un contexte où l'économie ralentit ?
Alors, assis sur l'analyse que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'on est sur un... Nous sommes lucides, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un moment difficile conjoncturellement, mais on pense que ce n'est pas une crise structurelle. Et fort de ce constat, effectivement, nous avons décidé, avant même le durcissement de la conjoncture, de se lancer avec l'ensemble des équipes, Michel Giboire, le président du groupe, François Giboire, mon co-directeur général et toutes nos équipes, dans un grand travail stratégique qui nous a amené en effet à définir trois axes. Le premier axe, c'est un axe de développement géographique. On va faire de ce groupe un groupe d'envergure nationale, en se développant dans trois nouvelles grandes régions, donc la Nouvelle-Aquitaine, Rhône-Alpes, et puis l'arc méditerranéen, PACA, et les régions Languedoc-Roussillon, enfin la sous-région Languedoc-Roussillon. Et dans le même temps, on va développer des nouveaux usages, parce qu'on pense qu'au-delà de la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'usage aujourd'hui, elle est clé. C'est là que se crée de la valeur. C'est aussi une façon, comment dirais-je, de garantir la qualité de nos biens et de nos services sur le long terme. Donc on a ouvert une offre de coworking, d'hôtellerie, on est en train de réfléchir à du co-living et du syndic. Et on pense que la conjoncture ne doit pas nous faire dévier de notre trajectoire parce que le marché est toujours là, certes des difficultés conjoncturelles, mais il est là. Les axes de développement dont je vous parle sont des axes sur 5-10 ans d'efforts. On a par ailleurs d'importants fonds propres qui nous permettent de voir les choses un peu plus sereinement. J'ajoute que sur la question transition zéro carbone, sur laquelle on pourra revenir peut-être plus en détail, c'est quelque chose d'existentiel. On n'est pas sur un phénomène de mode ou une décision conjoncturelle. On est sur quelque chose qui est totalement fondamental pour le développement de notre entreprise et de notre secteur en général.
Justement, beaucoup d'entreprises en ce moment font des annonces sur la réduction de leur empreinte carbone, sur la transition écologique. Comment est-ce qu'on fait le tri entre ce qui relève de l'engagement et ce qui relève de l'affichage ? Alors, le greenwashing, soyons clairs.
C'est un grand sujet qui me tient particulièrement à cœur. Moi, j'ai été pendant 7-8 ans à direction générale du groupe Engie, très connu pour son engagement dans la transition zéro carbone. Donc, la différence, c'est, et je veux citer personne et jeter l'opprobre sur personne, mais on voit assez vite quand on analyse les mesures court-termistes du genre « on va planter des arbres pour compenser », d'un travail de fond. D'abord, un travail de fond en la matière, ça nécessite du temps. C'est un vrai investissement. Il faut se faire accompagner. Il y a des cabinets spécialisés. Nous, on a choisi RPA Strans, il y a Carbon 4, il y en a d'autres. Et donc, c'est un travail, en fait, qui est un projet d'entreprise. Nous, on a décidé de travailler sur trois axes, deux principaux. Un, l'empreinte carbone, la réduction de l'empreinte carbone, qui est quelque chose que d'autres groupes ont fait, mais plus original, on a décidé de travailler sur la biodiversité. C'est-à-dire définir notre empreinte de biodiversité, se donner une cible d'empreinte de biodiversité à 10 ans, 20 ans, 30 ans, et définir une roadmap, un plan d'action pour faire en sorte que notre empreinte biodiversité soit la plus faible possible, voire même qu'elle soit positive par nos actions. Voilà, ça c'est quelque chose de plus original, de plus profond, et par ailleurs ça repose sur des éléments très concrets dont je pourrais vous donner quelques exemples.
En un mot, est-ce que cette réduction de l'empreinte carbone dans l'immobilier, ça va forcément entraîner une hausse significative des prix de l'immobilier ? On nous dit que ça coûte beaucoup plus cher de construire des logements, on va dire, plus efficients.
Alors, avant de répondre à cette question, je vais y répondre. Je pense que de toute façon, on n'a pas le choix. Le monde de l'immobilier, d'une façon générale dans le monde, c'est à peu près 40% des émissions de gaz à effet de serre.
Là, on parle de la construction et de l'usage.
De la construction et de l'usage, voilà, de l'ensemble. Donc, à partir de ce moment-là, si on est un peu conscient écologiquement et civiquement, on sait très bien qu'on n'a pas le choix. Alors, et ça ne peut pas être à n'importe quel prix, et on voit bien les problèmes de pouvoir d'achat de nos concitoyens qui ont face à de grandes difficultés en même temps. Donc, la réponse est... Ça dépend. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a des filières qui sont parfois pas encore complètement matures. Par exemple, la filière bois, Il y a des entreprises déjà de belle taille, mais on voit qu'on n'a pas encore toujours de très grandes entreprises, qu'à la première difficulté conjoncturelle, il y a des dysfonctionnements. Donc parfois, ça peut générer des surcoûts. Mais ça peut être aussi source d'économie. Quand on va vers des énergies plus vertes, intégrées au bâtiment, elles sont source d'économie, notamment quand les énergies fossiles explosent. Donc certaines des technologies d'aujourd'hui et de demain seront source de légers surcoûts, d'autres seront source d'économie. L'idée, c'est qu'à terme, de toute façon, ce soit gagnant-gagnant.
Merci beaucoup, Olivier Biancarelli, directeur général du groupe Giboire. Merci beaucoup d'être venu en plateau. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos podcasts en replay, tous nos invités, toutes nos interviews sur le site de BFM Business. On va marquer une pause. Il est 10h30, on est un petit peu en retard. Juste après la pause, ce sera le match des traders. On va parler de cette séance à la Bourse de Paris. Ça se passe pas très bien, on est dans le rouge et on en parle tout de suite après la pause.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. BFM Business, l'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Stéphane Pedrazzi.
Il est 10h33 exactement, la Bourse de Paris dans le rouge. Ça se passe pas très bien depuis l'ouverture ce matin. On va en parler avec Jean-Louis Cussac, trader pour compte propre et formateur chez Perceval. Bonjour Jean-Louis, on vous retrouve dans un instant. Mais d'abord Alexandre Baradez, bonjour. Responsable de la stratégie de marché chez IG. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Merci
bonjour.
D'être avec nous. On espérait que la clôture à la hausse des marchés américains hier soir donne un petit coup de fouet au marché européen. Finalement, ça n'a pas été le cas.
C'est pas le cas, mais pour autant, je pense qu'on est quand même dans une zone qui est une zone de carrefour, une zone où évidemment que les risques sont toujours présents, les risques inflationnistes sont toujours là, les risques d'action musclée de banques centrales sont toujours là. Mais ce qui change quand même depuis quelques jours maintenant, c'est qu'on voit que les banques centrales de certains pays commencent à réagir. On a eu un premier exemple avec le Japon il y a quelques jours. Alors ça touchait uniquement la partie de devise qui était un petit peu trop faible par rapport au dollar et donc intervention sur le marché d'échange. Hier, c'est la Banque d'Angleterre pour le Royaume-Uni et là, c'est un mouvement costaud dans le sens où effectivement, la Banque d'Angleterre repousse son projet de tightening, en fait, c'est-à-dire de resserrement monétaire. Ça a carrément été repoussé. Et c'est même l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que la Banque d'Angleterre a procédé à des achats de maturité au-delà de 20 ans au Royaume-Uni pour éviter que les taux ne flambent. Et l'action a été particulièrement visible sur les marchés. On a une détente massive des taux longs britanniques et même de manière assez spectaculaire, on a même vu des détentes sur d'autres pays. Par exemple, l'Italie, ça a bénéficié à l'Italie. On a vu le spread avec l'Allemagne se resserrer entre les taux italiens et les taux allemands. On voit que le taux de 10 ans américain qui était à plus de 4% est retombé à 3,7. Donc là, il se redresse un peu ce matin à 3,8. Mais pour l'instant, on n'est pas revenu sur les niveaux obligataires qu'on avait avant l'intervention de la Banque d'Angleterre. Donc ça, pourquoi on parle de ça maintenant? Parce que ça montre quand même que alors ce n'est pas la BCE et ce n'est pas la Fed, et le marché regarde surtout ces deux-là, mais ça veut quand même dire que des banques centrales, quand elles estiment qu'à un moment donné les tensions sont trop fortes, eh bien elles interviennent. Et ça, c'est vrai qu'on toujours on se bat pas contre une banque centrale. Certains l'ont tenté, parfois ça a réussi, mais les exemples de ceux qui ont raté contre une banque centrale sont plus nombreux que ceux qui ont réussi. Et donc ça donne quand même au marché le sentiment que bien oui, on va peut-être tester encore une fois la banque d'Angleterre, puis une deuxième fois, etc. Mais on voit qu'en face il y a du répondant. Et donc si on ramène ça au marché action, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, si aux États-Unis ou en Europe, on a des signaux de marché qui commencent à devenir un peu trop volatiles, eh bien, ça veut dire que la Fed commencera à bouger son langage aussi et la BCE aussi. Donc, on n'y est pas encore, mais je trouve que si on ramène ça au CAC 40, il ne faut pas oublier que le CAC 40, et c'est les niveaux qu'on donnait déjà plusieurs semaines maintenant, on est sur des niveaux d'un point de vue technique, ce qu'on peut guetter des niveaux de support. Alors le support, c'est pas la garantie noir sur blanc que le support soit du marbre pur et qu'on passe pas au travers, si vous voulez. Mais c'est une zone qui est très dense, dans la zone 5006-5008, et moi je considère que tout passage sous cette zone sera plutôt une forme d'exagération baissière qu'un réel appétit pour se débarrasser d'actifs qu'on ne rachètera pas avant plusieurs années, si vous voulez. Donc je pense qu'on est quand même dans une zone qui est opportune pour les investisseurs. On n'a toujours pas de signaux d'achat à court terme. Ça, c'est par contre, dans ce sens-là, moi, je vois pas d'opportunité évidente à ce niveau-là pour quelqu'un qui se dit « j'achète maintenant pour une opération sur la journée ou sur du swing horizon de 3 jours », si vous voulez. Il n'y a pas encore ce genre de situation. Ouais. Ça, il faudrait qu'on ait effectivement des choses, pas seulement une intervention d'une banque centrale. Il faudrait qu'il y ait des niveaux techniques qui soient repris, qu'on revienne dans des zones, des signes 2, signes 3, pas avant. Voilà. là, dans ce cas-là, il y aura un signal. Mais par contre, pour un investisseur qui se dit, bon, qu'est-ce que je fais à 5006, 5007, est-ce que c'est opportune? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est pareil pour les gros indices américains comme le Russell 2000 pour les small cap. Je pense même que le DAX, sur le niveau actuel, il commence à te présenter des opportunités de valorisation et des opportunités techniques. Donc, je serais de plus en plus réticent à avoir des billets baissiers sur ces niveaux-là. Je pense que le marché peut avoir envie de tester les supports, de passer un peu au travers, de jouer un peu avec les zones, mais je ne suis pas convaincu qu'il y ait un appétit, parce qu'en face, je pense que le marché et les investisseurs se disent, si on pousse trop loin le bouchon, si on devient trop nerveux, si le marché devient trop nerveux, trop volatile, eh bien les banques centrales réagiront. Et se trouver face à une réaction de banque centrale, si on est mal positionné, ça peut faire très mal. Ouais. Donc je pense qu'on est dans des zones qui commencent à nécessiter un peu de vigilance et un peu plus d'équilibre dans le rapport haussier-baissier.
Merci beaucoup Alexandre. On va donner la parole à Jean-Louis Cussac chez Perceval. Jean-Louis, un mot rapidement sur évidemment le marché et puis peut-être un mot de Porsche avec cette introduction en bourse assez spectaculaire puisque le Porsche est valorisé pratiquement au même niveau que sa maison mère, le groupe Volkswagen.
Ouais, bah je vous confirme, ce sont des bonnes voitures. Donc là, il faut qu'on aille vite, c'est vrai. Alors, pour répondre à Alexandre, le put des banques centrales, oui, bien sûr, on en parle, mais est-ce qu'il existe vraiment? C'est des questions qui sont toujours très importantes. C'est l'angoisse pour celui qui achète et qui se dit, ouais, mais d'accord, mais est-ce qu'il y aura vraiment quelque chose qui va se passer? C'est un pari. Après, acheter à ce niveau de prix, de niveau de marché, je comprends, mais il y a un vrai crash sur les valeurs hors CAC 40. C'est un vrai crash. Vous vous rendez compte? Même sur le groupe A, vous avez des valeurs depuis le début de l'année qui, hors PA, perd 86%. Et le nombre de valeurs qui perd plus de 30%, c'est considérable. Les gérants de ce secteur doivent s'arracher les cheveux. Et puis, parfois, ils ont de quoi se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Il y a des valeurs qui cotent en dessous de leur actif net. Enfin, c'est du délire. Mais nettement, quoi. C'est-à-dire, leurs participations, parfois, sont même pas valorisées. C'est assez inimaginable. Donc, après, il y a le CAC 40. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que le CAC 40, il y a quelques valeurs qui, quand même, aussi sont au tapis. Mais il y a des valeurs, les plus grosses pondérations, évidemment, ce sont les plus grosses, puisque dès qu'elles vont au tapis, elles diminuent en pondération. Mais qui résiste? Alors, en effet, à 5006, 5007, c'est vrai qu'il y a de quoi se poser de questions. J'évoquais hier un plus bas temporaire, éventuellement sur la zone 5600-2015, pourquoi pas. Je m'en étais pas fixé, là, je m'en fixe un, où je vais faire quelque chose certainement. Maintenant, tous les jours, on cherche à vendre. Tous les jours, le sens prioritaire, il reste baissier, mais tous les jours, on a des écarts de cinglés. Hier soir, on est monté, 5820. Alors moi, j'ai vendu à 17h30, j'ai vendu à 22h. Franchement, quand j'ai vendu, j'y suis allé doucement. Parce que c'est le but, c'est ce que je vous dis chaque jour. Je vends, j'essaye de vendre sur des rebonds. Mais les rebonds, ils vont jusqu'où? Ils démarrent où? Alors, ils démarrent point bas, ok, très bien. On voit que ça monte dans l'écart type, 30, 40 points. On commence à vendre. Si on commence à vendre là, parfois, on voit 150 points de plus, quoi. Enfin, c'est du délire. Donc, ce matin, vous vous rendez compte, on a perdu par rapport à hier soir 2,7%, là. Et puis, on a perdu 2% depuis 8h du matin. Depuis 8h du matin. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 8h du matin? Bah, rien de plus. Rien de plus, rien de moins. Donc, vous voyez bien qu'il se passe des trucs assez, assez violents. On a des marchés actions qui sont psychologiquement très sensibles. Et dans les faits, ils sont sensibles à l'évolution des taux souverains. Ça, c'est une certitude. Donc, voilà, il suffit que ça bouge de ce côté-là. Et tout d'un coup, ça se réplique. Il y a une réplique, on va dire, sur les actions avec une amplification extrêmement violente parce qu'il y a une grande fébrilité. Mais des acteurs super préparés. On est prêt à tout. Tout le monde est conscient de cette situation extrêmement tendue. Donc voilà, pour l'instant, c'est vrai. Moi, ça me donne aussi envie de rentrer parfois des positions. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail de cette gestion qu'on pourrait être amené à faire avec les options, les futurs, etc. Un mélange de stratégies complexes. Bon, à notre niveau, c'est simple, mais il y a beaucoup de positions qui sont comme ça qui méritent, si vous voulez, des ajustements, des arbitrages chaque jour qui amplifient les mouvements de baisse, qui amplifient les mouvements de hausse et qui agitent cette fameuse eau du bocal dont je vous parle, et qui ne devrait pas forcément bouger beaucoup, mais qui bouge beaucoup. Et quand on connaît les phénomènes de construction endogènes au marché, ces phénomènes de construction sont extrêmement puissants et agitent ce marché d'une manière incroyable. N'empêche que, c'est vrai, je reviens sur les valeurs secondaires, entre guillemets secondaires, hein, oui. Parce qu'il y a quand même des belles valeurs. En groupe A, c'est pas de la rigolade. Il y a un vrai crash. Donc si les gens regardent leur portefeuille en se disant « je perds une fortune », je comprends parce que c'est une réalité.
Merci beaucoup, Jean-Louis. On se retrouve tout à l'heure à 11h30. On aura surtout retenu que vous avez une Porsche, c'est ça? Pas de commentaire. Merci beaucoup, oui. Jean-Louis Cussac, tout à l'heure. 11h30. La polémique, Nicolas Dose.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Très bonne nouvelle, si vous cherchez à obtenir un crédit immobilier, le taux d'usure va repasser au-dessus des 3% à partir de samedi.
Oui, alors c'est bizarre de dire qu'une hausse de taux, c'est une bonne nouvelle. C'est général. Mais le taux d'usure, c'est très particulier. Plus ce taux d'usure est élevé, plus ça veut dire que la banque peut vous prêter pour cher, peut vous prêter cher, et donc plus elle a la capacité de supporter des dossiers risqués, parce qu'elle peut justement couvrir son risque, parce qu'elle peut vous prêter cher, donc moins elle a tendance à dire non. Plus ce taux est bas, et c'était la revendication des courtiers là, depuis ces dernières semaines, ben moins elle peut se permettre de dire oui à des dossiers fragiles, et donc il y a des refus de prêts. Alors la décision de la Banque de France, hein, c'est un choix politique, j'ai envie de dire quasiment, c'est qu'on passe de 2,57 à 3,05%, c'est vraiment une hausse importante et inédite pour des emprunts de 20 ans et plus. Ce taux d'usure, c'est le taux maximum auquel votre banquier peut vous prêter. Il peut pas, il a pas le droit d'aller au-delà, c'est une contrainte prudentielle. C'est un taux vraiment TTC, tout frais compris. On prend le taux d'intérêt pour le calculer, on prend ce que vous allez payer en assurance emprunteur, on prend ce que vous allez payer en frais bancaires de dossier. Et alors, c'est un choix de la Banque de France qui est actualisé tous les 3 mois. Et la Banque de France le définit dans l'objectif de protéger l'emprunteur. Éviter, en fait, que des gens soient inciter ou puissent emprunter finalement un peu trop compte tenu de leur profil et se mettre en risque de surendettement.
C'est intéressant, vous dites c'est une bonne nouvelle pour l'emprunteur, alors que ce taux d'usure, il est là avant tout pour le protéger. La Banque de France l'a même rappelé.
Alors, il y a un peu d'incohérence dans ce que je dis, ou en tout cas l'intuition, c'est pas ça. Mais si vous surprotégez votre enfant, ben vous finissez par lui dire non à tout dès qu'il veut quelque chose. Non, tu n'iras pas au foot, tu peux te fouiller la cheville. Non, tu vas pas aller au cinéma parce que tu pourras attraper Covid. Bon, voilà, ben, c'est un peu la même idée. Si la banque ne peut pas se permettre de couvrir son risque suffisamment, avec un taux d'usure suffisamment élevé, elle ne peut pas se permettre d'accepter des dossiers où il y a trop de risques. C'est ce qui fait qu'on est arrivé, pas que pour cette raison-là, mais on est arrivé au fait qu'on est à des niveaux très importants de refus de prêt depuis le début de l'année. Je ne sais plus à combien on en est, mais c'est assez important.
Sur certaines catégories, je crois qu'on est à 50%.
Oui, absolument. Et donc là, on a demandé aux courtiers, BFM Business a demandé aux courtiers, Marie Cœur de Roy d'ailleurs, elle a eu des gens de chez Vous Financiers qui disent, écoutez, là, on a vraiment fait un jump énorme, on monte à au-delà de 3%, et ils considèrent qu'au-delà de ces 3%, la quasi-totalité des dossiers vont désormais être recevables auprès des banques, et que donc les refus vont reculer.
Mais
pourquoi une hausse de taux, c'est une bonne nouvelle, même si ce taux est censé vous protéger.
Alors, si on regarde quand même en dézoomant un petit peu, cette hausse annoncée par la Banque de France, elle confirme que le prix de l'argent continue d'augmenter inexorablement.
C'est un peu le signe fondamental de cette histoire. C'est que la Banque de France était rivée, là, sur son taux d'usure dans les 2,5, 2,6. Puis elle a fini par avancer parce que le monde change. Alors, c'est vrai qu'avec ce taux d'usure qui augmente, les refus de prêts vont reculer. Mais ça veut dire que fondamentalement, le crédit va coûter plus cher. Que le fameux taux annuel effectif global, le TAEG, il va aller vers le haut. Ça confirme qu'on est dans un monde d'inflation. Ça confirme qu'on est dans un monde de hausse de taux. Ça confirme qu'on est dans un monde où le tout va être plus cher, y compris l'argent. Alors c'est très très bien, cette hausse du taux d'usure, c'est vrai que c'est une bouffée d'oxygène pour les courtiers qui vont retrouver un peu de job, parce que les banques ont tendance à les mettre de côté en ce moment un peu, les courtiers. Pour ceux à qui on disait non, qui vont avoir la possibilité d'emprunter à nouveau. Mais vu la dynamique des éléments macro-éco qu'on observe tous les jours aujourd'hui, cette dynamique d'un monde plus cher est quand même une dynamique qui est en train de s'installer. Et comme je le disais, c'est tous les 3 mois qu'on se pose la question. Alors on va dire bouffée d'oxygène, mais la bouffée d'oxygène pourrait être de courte durée, en fonction de l'évolution du paysage global. C'est là où c'est peut-être un peu moins une bonne nouvelle, vous voyez.
Merci beaucoup, Nicolas. Vous savez que des patrons utilisent leur entreprise pour acheter leur résidence secondaire et parfois leur résidence principale.
Utiliser son entreprise quand ça passe en note de frais, c'est ça?
Est-ce que c'est légal? On va en parler tout de suite.
Ça, je ne saurais pas vous dire, je ne suis pas assez expert.
On en parle tout de suite, restez avec nous.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Beaucoup d'investisseurs, en effet, ont recours à leur société quand ils sont chefs d'entreprise pour acquérir des biens patrimoniaux, y compris donc la résidence principale ou la résidence secondaire. Tendance forte, et on va faire le point justement sur cette pratique avec Olivier Rosenfeld. Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Vous êtes consultant et conseil du groupe Harvest. Pourquoi cette tendance d'abord, avant de voir si c'est légal?
Alors ce qu'il faut, pour contextualiser, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que depuis de nombreuses années, législateurs, autant que nos gouvernants, ont fait le choix de privilégier le taux à l'assiette. Et ce faisant, pour obtenir les recettes fiscales escomptées, ils n'ont eu de cesse que d'augmenter les taux d'imposition, ce qui d'ailleurs a parfois porté préjudice à l'activité économique. Certains agents considérant que tout effort marginal supplémentaire n'avait qu'une portée tout à fait relative, en tout cas inintéressante pour eux. Et lorsqu'on transpose ce raisonnement à l'entreprise, lorsque l'activité économique se portait plutôt bien, que des liquidités effectivement étaient se développaient, beaucoup ont considéré que distribuer sous forme de dividendes ces liquidités était trop onéreux. Et en réalité, ça n'est que depuis la création de ce fameux prélèvement forfaitaire unique qui a anesthésié la relation entre revenus et taux d'imposition, que les dividendes ont repris des couleurs, ce qui d'ailleurs a corroboré cette fameuse courbe de l'affaire « trop d'impôts tue l'impôt », puisque là on a augmenté l'assiette, et ce qui a été plutôt favorable à l'État. Ce qui est sûr, c'est que depuis de nombreuses années, des liquidités se sont accumulées, et certains ont utilisé cette trésorerie, pourtant propriété de la société, pour acquérir un bien dont ils se sont réservés la jouissance, résidence principale, résidence secondaire, comme vous le disiez Stéphane.
Oui, alors présenté comme ça, on se demande si c'est parfaitement légal. Est-ce que c'est possible, pour vous poser une question directe, et excusez-moi de faire un petit peu un débat de café du commerce, mais c'est possible de faire acheter sa résidence secondaire par son entreprise ?
Alors, il faut savoir que des sociétés peuvent le prévoir dans leur objet même. Mais cet objet peut apparaître comme particulièrement favorable et généreux, et donc devenir discutable. On est en réalité proche, pour ne pas dire, en plein dans ce qu'on appelle un acte anormal de gestion. Deux hypothèses peuvent nous amener à considérer que cet acte anormal de gestion est présent. Un, c'est lorsqu'une société assume une dépense supérieure à ce qu'elle aurait dû financer.
Ouais.
Et la deuxième, qui correspond davantage à notre situation, c'est celle où une société renonce à un revenu qu'une gestion normale lui aurait permis d'obtenir. Et là, l'absence de perception de loyer, alors même qu'elle est propriétaire du bien, illustre ce risque d'acte anormal de gestion, même si c'est à l'administration d'attaquer, de prouver, pour ensuite débouter le contribuable.
Quelles sont les conséquences pratiques pour la société et pour ses associés ? Est-ce qu'on peut considérer que potentiellement ils sont lésés ?
Alors, en fait, l'administration fiscale considère que la société cherche à minimiser artificiellement la base imposable, puisque vous avez des charges d'entretien, des amortissements, sans la recherche de revenus en contrepartie. Et par voie de conséquence, elle va agir dans deux directions distinctes. La première, c'est de considérer que lui est inopposable la déduction des charges, et donc elle va chercher à obtenir la réintégration de ces charges pour annihiler les avantages fiscaux. Ou en second lieu, seconde hypothèse, imposer la société sur un loyer fictif qui correspond à ce qu'auraient dû supporter ceux qui ont bénéficié effectivement de l'usage du bien pour la période pour laquelle ils ont eu la disposition, même s'ils ne l'occupent pas. Donc du côté de la société, on va essayer de voir comment annihiler cet avantage fiscal virtuel. Pour les associés, soit ils vont rentrer dans ce qu'on appelle le champ d'application des dividendes dits occulte, parce qu'on n'est pas passé par la case d'Assemblée Générale, et ils vont être imposés sur une base qui va faire abstraction de l'avantage pratiqué habituellement, qui est un abattement de 40% pour déterminer la base imposable. Donc ils vont être imposés sur une base surévaluée. Ou, deuxième hypothèse, on va conseiller qu'ils ont bénéficié d'un avantage en nature qui va être traité comme une rémunération supplémentaire qui sera imposable et cotisable. Donc vous voyez que les conséquences peuvent être extrêmement fâcheuses.
Comment est-ce qu'on remédie à cette situation ?
Alors, il y a trois hypothèses. La première, qui est la plus intuitive, la plus simple, qui serait d'émettre un contrat de bail entre la société, la personne morale et les personnes qui jouissent de ce bien, évidemment sur des bases de loyer normales, parce que sinon, on pourrait considérer que si ce loyer n'est que symbolique, la contrepartie est insuffisante. Deuxième hypothèse, qui supposerait que la société soit à l'impôt sur les sociétés pour y avoir opté, certaines règles légales nous permettent, si l'option est intervenue moins de 5 ans après la situation que nous connaissons, d'y renoncer. Et lorsqu'une société est à l'impôt sur le revenu, ça laisse beaucoup plus de liberté, et donc on éviterait ce risque d'acte anormal de gestion. La troisième hypothèse, eh bien, c'est carrément que la société se départisse, se délaisse de ce bien, le vende, par exemple, de telle manière qu'on mette fin à une situation qui n'est pas tout à fait acceptable aux yeux de l'administration fiscale.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Olivier Rosenfeld, consultant et conseil du groupe Harvest. Merci. On va parler financement participatif à présent.
BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.
Le crowdfunding dans le secteur immobilier, on va en parler avec Gauthier Allard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de Club Funding. D'abord, est-ce qu'on peut peut-être donner un mot d'explication? Qu'est-ce qu'on entend par crowdfunding immobilier?
Oui, bien sûr. Alors, le crowdfunding immobilier, c'est une solution d'investissement qui permet aux particuliers de leur placer leur épargne à des rendements élevés de l'ordre de 10% en investissant dans des projets immobiliers.
Est-ce que ça attire vraiment les particuliers?
Oui, ça fonctionne énormément. C'est vrai que tous les ans, quasiment, le marché double. L'année dernière, ça représente quand même plus de 1 milliard d'euros d'investissement. Et cette année, on envisage plutôt un marché global autour de 1,5 milliard. Et Club Funding, donc, est leader depuis maintenant plusieurs années. L'année dernière, donc sur 2021, on a financé plus de 300 millions d'euros de projets. Et cette année, on envisage de financer à peu près 500 millions d'euros. Et en plus de ça, on s'équipe pour l'avenir. On vient de réaliser une levée de fonds de plus de 125 millions d'euros pour nous aider à développer l'international.
Alors, je suis un investisseur. Vous voulez me convaincre? Quels sont les avantages et surtout, quel est le rendement? Est-ce que je peux espérer?
Oui. Alors, le rendement, c'est autour de 10%. On peut financer des projets entre 8 et 11%.
C'est beaucoup?
C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. C'est élevé.
Mais est-ce que c'est en contrepartie d'un risque?
Alors, effectivement, il y a du risque.
Il y a une règle. En investissement, plus le rendement est élevé, plus, a priori, il y a du risque.
Oui, tout à fait. Il y a du risque. Après, on met en place des garanties. En fait, c'est vrai que ça peut paraître souvent assez étonnant que des entreprises vont emprunter à 10% et on le compare au financement bancaire. Alors que c'est pas tout à fait juste parce que le financement, il vient en complément des financements bancaires. Donc, un opérateur immobilier, donc des marchands de biens ou des promoteurs immobiliers, pour acheter un immeuble, vont aller voir une banque pour financer une partie du financement et vont aller voir des plateformes de financement pour financer le complément, les fonds propres. Et 10%, finalement, c'est assez élevé, mais ça leur permet derrière de dégager des marges plus importantes.
Donc 10%, c'est très attractif. Est-ce qu'il y a d'autres avantages?
Les avantages, c'est un moyen d'investissement qui a été totalement simplifié. On peut, en quelques clics, investir son épargne, toucher, en tout cas chez Club Funding, des intérêts qui sont mensuels sans avoir la gestion de l'immobilier. Et le sous-jacent, c'est bien de l'immobilier. On met en place des garanties comme des hypothèques de second rang. On peut même mettre en place des fiducies. Donc on est quand même dans l'univers de l'immobilier sécurisé et on touche des rendements derrière.
Quel type de projet immobilier qui peuvent être financés en crowdfunding?
Alors, il y a vraiment deux classes. Il y a les promoteurs immobiliers et les marchands de biens. Un promoteur immobilier, il va réaliser la construction pour ensuite revendre à des particuliers ou des institutionnels. Et un marchand de biens va plutôt acheter un immeuble existant, va le rénover et après le revendre également à des particuliers ou des institutionnels. L'année dernière, donc sur 2021, le marché, il est assez équilibré. Il y a eu un petit peu plus de projets marchands de biens. Chez Club Funding, on a toujours eu une grosse appétence sur les marchands de biens. Ça représente plus de 80% de nos financements, c'est des marchands de biens. Et dans les marchands de biens, on va retrouver des actifs résidentiels, un immeuble, également de bureaux, du tertiaire, du commerce. C'est vraiment très, très large.
Est-ce que vous investissez également dans la rénovation? Il y a besoin d'énormément de capitaux actuellement pour rénover le parc immobilier, notamment la rénovation énergétique.
Oui, exactement. D'ailleurs, demain, on réalise une collecte de 8 millions d'euros. Il s'agit d'un centre commercial qui a besoin de rénovation et on va financer ce projet pour permettre à l'opérateur de rénover son actif.
Vous avez des exemples de projets peut-être à nous exposer?
Oui, tout à fait.
Pour illustrer.
Ben, par exemple, cette semaine, on a financé notre premier projet au Luxembourg. C'est un actif qui est quand même assez important, qui a été acheté à plus de 50 millions d'euros. L'opérateur, c'est une société de gestion qui travaille également en France et partout en Europe. Et ils sont venus solliciter Club Funding pour un besoin de 8 millions d'euros pour financer ce projet.
J'aimerais qu'on parle de réglementation. Les plateformes, désormais, ont la possibilité d'obtenir un nouvel agrément de prestataire de services de financement participatif. C'est le PSFP au sein de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça va changer concrètement?
Alors, ce qui va changer, c'est qu'on va pouvoir intervenir partout en Europe. Aujourd'hui, on a une petite contrainte, même si on a déjà financé des projets en Europe, on le fait via des véhicules français. Demain, on va pouvoir directement financer des sociétés dans chacun des pays. Et donc, peut-être que la prochaine question, c'est comment vous allez faire pour maîtriser tous ces projets. C'est aussi la raison pour laquelle on a réalisé cette levée de fonds auprès d'institutionnels, la levée de fonds crowdfunding de 125 millions, qui nous permet d'avoir des investisseurs qui connaissent parfaitement ces marchés et ils vont nous aider à rentrer dans chacun des pays européens.
Il y a une demi-heure, on parlait de la dégradation de la conjoncture et de son impact sur le marché immobilier neuf. Comment est-ce que la conjoncture affecte votre activité?
Alors, il peut y avoir un ralentissement sur notamment le portefeuille existant, un ralentissement au niveau des ventes. Donc, il y a un petit peu plus de retard qu'il y a quelques années. Donc ça, il faut être quand même assez vigilant. Mais du côté de club funding, on négocie systématiquement des augmentations de taux pour les investisseurs. Les coupons restent payés lorsqu'il y a du retard. Donc, c'est pas le risque ne change pas forcément. Par contre, il va y avoir quand même une évolution au niveau du marché avec des opportunités. Parce que certains opérateurs vont devoir vendre leurs actifs. Et il va y avoir des négociations un peu plus importantes parce que tout le monde n'a plus accès au financement bancaire. Donc, des opérateurs comme les marchands de biens qu'on finance vont pouvoir négocier les prix d'acquisition et se faire financer par des plateformes comme Clubfunding.
Vous parliez d'un rendement de 10%. Généralement, c'est le signe qu'il y a un risque. Très clairement, est-ce qu'il y a un risque de perte en capital ?
Alors oui, il y a un risque de perte en capital. Après, sur les 800 millions d'euros déjà financés par Clubfunding, on a zéro défaut. Et dans ces 800 millions d'euros, plus de 300 millions d'euros ont déjà été remboursés. Donc oui, il y a un risque. Après, on met systématiquement en place des garanties. On met dans plus de 90% de nos dossiers des cautions personnelles des dirigeants qui ont un patrimoine important. Donc en cas de défaut, ils peuvent solder avec les actifs qu'ils peuvent posséder depuis plusieurs années.
Merci beaucoup Gauthier Allard, directeur général de Club Funding.
Merci.
On marque une pause. Juste après, on fera un point sur les marchés avec Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. On parlera notamment de l'introduction en bourse de Porsche qui pour l'instant se passe plutôt bien. A tout de suite.
BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.